Et tout de suite, le rendez-vous.
On attend. On n'entend pas. Et comme ça, on t'entend. Ça va ? La cravate, donc, était un obstacle.
Ah, Jacques Lacan. Pas de cravate, pas d'obstacle ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du mur de Berlin, de la Pologne, de l'enfance de femmes exceptionnelles, de fermeture à l'iris, de thérapie existentielle et même de Jacques Lacan. Avec Arnaud Desplechin pour son film « Trois souvenirs de ma jeunesse » présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, sorti en salle demain d'un vrai faux préquel de « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle », soit le retour 20 ans plus tard de Paul Dédalus, alias Mathieu Amalric, en alter ego du cinéaste, Benoît Lagane.
Et Arnaud Desplechin signe un film romanesque et transgenre travaillé autant par le Teen Movies indépendant américain que la nouvelle vague truffaldienne.
19h30, le plateau sera existentiel avec Sabine Giesiger qui réalise Irvine Yalom, La thérapie du bonheur, un documentaire sur un des psychiatres psychothérapeutes les plus influents des États-Unis ou comment ne pas filmer un thérapeute assis, Zoé Sfez.
Un film qui ne veut pas être une biographie mais bien une thérapie, celle d'Irvine Yalom, celle de sa femme, de ses enfants et bien sûr celle du spectateur.
Sans oublier la session live du mardi, électro ce soir avec Nose.
Avec Nose, après 4 ans d'absence et un détour par l'Allemagne, le duo français revient au Bercail pour faire dialoguer blues et électro.
Une programmation de notre réalisateur Thomas Beau. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture d'Adrien Azeli qui occupe le poste jusqu'à la fin de la semaine. On ouvre tout de suite avec le son du jour.
Elle a été préférée à certains vétérans des médias et son manque d'expérience dans le milieu est déjà critiqué. Pour justifier son choix, le CSA évoque ses qualités, de solides compétences en management et une expérience dans la gestion du dialogue social. Car de nombreux chantiers l'attendent, rénover les programmes, développer le numérique, réformer France 3. Et tout ça avec un budget en baisse.
Bonsoir Adrien Azeli.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, mais il ne date pas d'hier.
Non, encore une fois, il est question de Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions, dont la nomination est contestée. Le président du groupe UMP, Christian Jacob, réclame une commission d'enquête parlementaire sur sa nomination. Pour Christian Jacob, le CSA agit de manière opaque. Ce week-end, une enquête de Mediapart a révélé que la nouvelle directrice aurait bénéficié d'appui parmi les sages du CSA et que les jeux étaient faits avant même l'examen des candidatures. Delphine Ernotte prendra ses fonctions à la tête de France Télévisions le 22 août prochain.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. C'est aujourd'hui le lancement de la campagne pour la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025, un projet qui devrait permettre à Paris de remettre la culture au centre de cet événement.
Pour 2025, c'est le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, qui construit la candidature de la France. La dernière fois, c'était en 1937. Hier soir, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, recevait le groupe Expo 2025 pour évoquer le rôle de la culture dans ce projet, car il faut bien avouer que cette dimension culturelle est plutôt absente depuis quelques années. On écoute Jean-Christophe Fromentin.
Les grandes expos universelles, entre 1855 jusqu'à 1937, étaient vraiment dans un équilibre entre la culture et l'industrie. Et cet aspect culturel s'est délité, a perdu et a quitté un peu les expositions universelles. Or, à Paris, en 1855, en 1868, en 1889, en 1900, il y avait des centaines d'ateliers d'artistes qui venaient s'installer en périphérie des galeries des machines. Donc la culture était très très présente. On disait hier avec Fleur Pellerin, vous voyez, on pourrait imaginer que les artistes du monde entier soient invités et qu'il y ait en France des centaines d'ateliers d'artistes qui soit dans le patrimoine, chez des gens, dans les musées français, partout, que finalement ce soit une grande invitation aux artistes du monde entier de faire en 2025 de la France la plus grande galerie d'art du monde entier.
Depuis plusieurs années, les expositions universelles se préoccupent de sujets plutôt sociaux. Cette année à Milan, le thème c'était « Nourrir la planète ».
Et l'art est mis de côté, même si les innovations architecturales restent centrales. Sur cette place de l'art, j'ai demandé à Pascal Horry, historien à l'Université Paris 1, à quel moment elle a été faite.
Il ne faut pas oublier que les expositions sont nées de l'industrie et pas de l'art. C'est la France qui a introduit massivement ce qu'on appelait les beaux-arts. Le projet initial, c'est de présenter les avancées technologiques accompagnées par des entreprises. Donc c'était ça le point de départ. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça a été culturalisé en cours de route assez vite. La France y a contribué. C'était le signe français que d'ajouter les beaux-arts. Donc dès l'exposition de 1855, on voit que la France tient à exposer aussi aussi ces grands artistes. Et c'est là qu'on invente la notion de rétrospective. Par exemple, les expositions rétrospectives, elles datent de cette époque-là, avec une confrontation entre Ingres et Delacroix. Et la grande objection contre les expositions universelles aujourd'hui, c'est de dire que, à l'ère d'Internet, de la communication simultanée et immédiate, qu'est-ce que peut apporter l'exposition? Je pense que c'est un petit plus en ce qui concerne une réflexion presque utopique sur l'espace et une société à laquelle on donne du sens, mais en même temps du rêve. Bon, alors ça sera un équilibre difficile à trouver, évidemment.
Le projet Expo 2025 prévoit qu'aucun argent public ne sera dépensé puisque tout devrait être remboursé par les visites.
Et ce sera surtout l'occasion d'être un véritable moteur pour le Grand Paris avec le développement du transport, le tout pour un objectif de 80 millions de visiteurs. Je rappelle qu'en 1900, l'exposition universelle avait accueilli 50 millions de personnes. Pascal Horry.
On peut viser plus haut, mais à condition d'avoir quand même à l'échelle un espace beaucoup plus grand que celui de 1900. Donc, en effet, intégrant un Grand Paris qui va au-delà de Versailles, qui intègre le 9-3, bien sûr. Une époque où le ministre des Affaires étrangères, je trouve que c'est une bonne idée, Laurent Fabius, s'est autoproclamé ministre du Tourisme. Alors, certains seront effrayés, bien, ils ne viendront pas à l'exposition, mais l'exposition est destinée aux autres. Le fonctionnement est très simple. Contrairement aux Jeux Olympiques, à partir du moment où il y a clairement un investissement des pouvoirs publics d'un pays, ça se fait. Et je pense que depuis le temps qu'on attend, depuis 1937, quand même, une telle manifestation, ce ne serait pas une mauvaise chose parce que ça oblige à se dépasser un peu soi-même.
Le seul obstacle à la candidature de la France, ce sont les Jeux Olympiques 2024. C'est le gouvernement qui décidera du projet retenu. Ce soir, au Grand Rex à Paris, le comité Expo 2025 lance à la fois son film Imaginons 2025 et une grande campagne publique. Selon un sondage IFOP, plus de 80% des Français seraient favorables à la tenue de cette exposition universelle.
Et l'on passe tout de suite au bref, Adrien.
Oui, avec une nomination, le danseur et chorégraphe Alban Richard prend la tête du Centre chorégraphique national de Caen, Basse-Normandie. Il succède à Ella Fatoumi et à Eric Lamoureux, qui eux partent pour le Centre chorégraphique Franche-Comté à Belfort.
L'exposition Lascaux 3 débarque à Paris.
Dès demain, les répliques des peintures de Cro-Magnon seront exposées porte de Versailles, des œuvres qui ont 17 000 ans. Cette exposition internationale est d'abord passée par Bordeaux en 2012, avant les États-Unis, le Canada et Bruxelles. Ensuite, ce sera au tour de Genève, de la Corée du Sud et du Japon. Elle reste à Paris jusqu'au 31 août.
C'est ce qui s'appelle un dossier détaché de presse. Un cinéaste et un producteur palestinien privés de festival.
Wezam Moussa et Eyad Badouane, un cinéaste et un producteur palestinien, n'ont pas pu quitter Gaza pour se rendre au festival de Cannes. Ils étaient invités par la Fabrique des cinémas du monde qui favorise au festival l'émergence de la jeune création sur les questions sociales. Wezam Moussa devait rencontrer à Cannes des producteurs internationaux pour compléter le financement de ses prochains films.
Et la dernière?
C'est une histoire de Bolos Laurent, mais aussi de cuisine et d'environnement.
Alors, vous l'écrivez comment, Bolos?
B-O-L-2-O-2-S.
De O?
Un seul. Un seul.
Ouais, alors, c'est parti, c'est bien parti.
Le Larousse 2016 intègre 150 nouveaux mots à son dictionnaire. Alors on y trouve beaucoup d'anglicismes du langage de Jones, avec les mots bolos, lose et bien sûr selfie qui fait son entrée. D'ailleurs, le mot à sa version québécoise, c'est Lego Portrait, un spécial dédicace à Benoît Lagan. Mais la cuisine moléculaire prend ses lettres de noblesse, ainsi que la bistronomie et surtout plein de termes en rapport avec l'écologie, comme l'anthropocène, la durabilité, l'électrosensibilité et les particules, ces particules fines dont on entend parler tous les jours. D'ailleurs, notez que sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ne sont pas contentes puisque le Larousse n'a mis qu'un seul S à Bolos. Une pétition circule pour qu'il retrouve son deuxième S.
C'est facile, sinon on écrira Larousse avec un seul S.
Exactement.
Ça fera Larousse. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités?
Non,
Arnaud Desplechin.
Ça me réjouit que Bolos soit dans le dictionnaire.
C'est vous l'utilisez,
utile,
Bolos?
Hein, oui, bien sûr, évidemment.
À quelle occasion?
Quand j'en croise un.
Et on le reconnaît à quoi, Bolos?
Une attitude, une arrogance, vous voyez, un mélange d'arrogance et de côté minable, comme ça. On
très bien. Sébine Guiziguer, est-ce qu'il y a une réaction à ce que l'on vient d'entendre ou...
Non, ça va.
Ça va comme ça. Alors on va continuer tout de suite. On y va.
Le rendez-vous.
Il y a une chose embêtante. Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus.
Plateau retour sur avec vous Arnaud Desplechin. Demain sort en salle votre 8e film, Trois souvenirs de ma jeunesse, qui vient d'être présenté au Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Un film qui entretient des liens avec les précédents, puisqu'on y retrouve l'acteur que vous avez inventé, ce sont ses mots à lui, Mathieu Amalric, dans le rôle de Paul Dédalus, qui apparaissait déjà dans Comment je me suis disputé en 96, il y a presque donc 20 ans. On retrouve donc ce Paul Dédalus, cette fois il est anthropologue au Tadjikistan, il revient en France, et c'est à son retour qu'il se souvient de trois moments de sa vie. son enfance à Roubaix et la folie de sa mère, un voyage scolaire qui devient une mission en URSS, il a 16 ans, c'est juste avant la chute de Berlin, du mur de Berlin, et puis son entrée dans l'âge adulte entre le lycée à Roubaix, plus tard l'université à Paris, une période troublée par la rencontre avec Esther, une jeune fille exceptionnelle. Bande annonce.
Je suis désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers.
Quel était le souci avec mon passeport ?
Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus.
Alors, qui es-tu ?
Je ne sais plus.
Un autre Paul Dédalus.
Je me souviens.
Qu'est-ce que tu fais à Paris ?
Je cultive mon mystère.
Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente ?
Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, j'arrête pas de te manger des yeux.
Tu fais toujours cet effet-là.
Pourquoi ?
Parce que je suis exceptionnelle. Ils sont venus pour te casser la gueule. Ils sortent avec Esther.
Désolé, mais je crois que t'es bientôt lourdée, toi. Je crois que tu l'agaces. Même moi, on se connaît pas et déjà, tu m'agaces un peu.
Tout est effacé. Sinon, 3-4 bribes.
Je veux pas d'un fainéant dans ma maison. Ne me rapporte pas de telles notes.
Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé plus que sa vie ? Moi, je voudrais t'aimer comme ça.
Un autre Paul Dédalus.
Si tu existes, ça veut dire que je ne suis pas enfermé dans un rêve.
Je crois que j'ai un peu merdé avec Esther.
Comment ça ?
Je crois qu'on a un peu couché ensemble.
Je l'ai désiré. Et je crois qu'Esther aussi, à sa manière, a désiré que notre liaison ne connaisse jamais de fin.
Maintenant, elle est avec moi. Et les règles du jeu ont changé.
Un jour, j'ai donné mon identité. Je sais plus si je suis le bon.
Moi, je sais que t'es bien le vrai.
Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus.
Je confirme.
Je me souviens.
Je vous regardais à nos décléchins pendant cette bande-annonce qui a été retravaillée par notre réalisateur Thomas Beau. Et c'est presque un karaoké, c'est-à-dire je vous vois murmurer comme dans l'école des fans quand je regardais. On voyait les parents en train de dire les paroles que chantaient les enfants. Vous faites exactement la même chose.
Bah oui, je connais le dialogue
par cœur. Ah bah
je sors du mixage, donc je le connais par cœur.
Plus que par cœur, j'imagine. Est-ce que dans l'intonation qu'ils prennent, vous intervenez jusqu'à leur donner la façon dont vous entendez le texte à vos jeunes acteurs ici?
J'aimerais bien vous répondre non, parce que ça ferait noble, ça ferait la méthode de Stanislavski, etc.
Mais
j'ai bien peur que je les aide parfois. Ou en tout cas, je leur donne une intonation à eux de s'en servir. Ils l'attrapent ou non, je leur propose et puis ils s'en servent. Ils peuvent s'accrocher à moi, ils peuvent partir libre ailleurs. Mais j'essaye de me mouiller toujours un petit peu avant que eux plongent dans le bain, je plonge le premier.
Trois souvenirs donc dans ce film, mais qui ne prennent pas la même place. Il y a même un déséquilibre en faveur du dernier souvenir, l'entrée dans l'âge adulte entre Paris et Roubaix. Est-ce que ce déséquilibre était prévu au scénario ?
Oui, c'était... Il y a quelque chose qui me plaisait, c'est que... Donc la première partie, c'est les rapports entre Paul et sa famille. C'est très bref. C'est une sorte de petit film qui me ferait penser à des films de Bill Douglas. Vous voyez, Childhood, je pense à la trilogie de Bill Douglas qui était ressortie il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et la deuxième partie, la petite aventure comme ça d'espionnage en URSS et toujours brève. Et Esther prend toute la place. Et Esther, c'est la femme qui va occuper la vie de Paul Dédalus, mon héros. Et vous voyez, c'est comme une... Elle est mal élevée. Elle prend toute la place. Quand vous voyez au lit, elle prend toute la place. Quand elle prend toute la place dans sa vie, elle l'envahit. Et donc qu'elle vienne envahir le film, le cannibaliser comme ça, et que tout le film soit une ode à Esther, c'était ce que nous avions essayé d'écrire.
Au départ, le titre, peut-être le titre de travail, c'était Nos Arcadies, 3 souvenirs de jeunesse. Nos Arcadies a sauté, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, ça reste inscrit sur l'écran, ça reste inscrit sur l'écran. Parfois j'ai des titres comme ça, je me souviens, un conte de Noël, j'avais écrit en dessous fièrement Roubaix, avec un point d'exclamation. Alors là, c'est 3 souvenirs de ma jeunesse, Nos Arcadies. Je n'aime pas que le... Je trouve que ça ferait un très bon titre de chanson, Nos Arcadies. Mais je pense qu'il y a une chanson rock, j'ai oublié le chanteur qui avait une très belle chanson qui s'appelait Mes Arcadies, ou Arcade Fire. Voyez, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. C'est un super nom de groupe. Et ça passe bien. Mais pour les films, j'aime bien qu'il y ait un côté plus ouvert vers le public. Et comme le récit est un peu atypique, j'aimais bien que le titre soit comme un programme qui permette. J'aime pas quand les spectateurs sont perdus à l'intérieur de mon récit. J'essaie suffisamment de les perdre comme ça pour ne pas les confuser un peu, trop les confuser.
Benoît,
vous le disiez justement, il y a donc 3 films, 3 épisodes dans votre film. Or, aujourd'hui, de nombreux cinéastes de votre génération d'ailleurs, Olivia Sayas, Bruno Dumont, Éric Rochant, sont passés par la télévision et la série télévisée. Est-ce qu'il n'y avait pas matière là avec ce personnage pour en faire une série télévisée ?
Ah, non, je pense pas. Pas celui-là. Je regarde tous ces films. Vous savez peut-être mon amitié pour Éric Rochant. J'ai eu la chance de lire Le Bureau des Légendes. Le scénario était formidable.
Et vous avez même proposé d'ailleurs de réaliser des épisodes, je crois.
Ouais, mais j'étais pas libre. J'étais en train de faire celui-là.
Ça vous aurait intéressé ?
J'étais très fier. Vous voyez, c'est un ami, il me proposait ça, il me faisait confiance. J'étais très touché. C'était un moment d'amitié, quoi. On était à l'école de cinéma ensemble. Ouais. Donc, nous retrouvions des décennies plus tard. Il me proposait ça. J'étais très honoré. Et, j'espère qu'il a pas mal pris. Et Carlo, c'est un film qui est d'une très, très grande importance. Mais pour moi, Carlo, c'est un film. Vous voyez, c'est pas une série télé, c'est un film. Et je n'ai pas eu la chance encore de voir le Bruno Dumont, mais toute l'équipe technique avec qui j'ai travaillé, me hurle dessus à chaque fois que je dis ça, mais la vérité, c'est que j'ai pas eu le temps. Mais comme ils sont tous fans, je me rends compte.
De regarder Petit Quinquin.
De regarder Petit Quinquin.
Un mot sur la façon que vous avez de travailler d'abord avec les très jeunes acteurs qui jouent les personnages des années 80. Ils parlent du fait qu'il y a chez vous peu de répétitions et peu de prises. Et que ça a l'air vraiment d'être votre méthode de travail. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Ça dépend. Vous voyez, au tout début de mon travail, je me suis posé la question, est-ce que je serais un jour un cinéaste à beaucoup de prises ou à pas beaucoup de prises ? Alors, je lisais les interviews de Doyon, qui nous expliquait qu'il en faisait 60. Alors, j'aimais beaucoup les films de Doyon. Et je lisais aussi les interviews de Garrel, son camarade de travail, ils étaient de la même génération, et lui disait qu'il en faisait une.
Exactement.
Je disais, mince, mais je vais aller par où ? Alors, un peu peut-être pour surprendre les acteurs, j'ai toujours pas fait mon choix. Vous voyez, je reste toujours un étudiant en me disant, mince, est-ce que je dois faire comme l'un ou comme l'autre ? Alors, c'est vrai que maintenant, peut-être aussi est-ce sur Jimmy P où nous avions peu d'argent pour faire le film, nous étions tenus à la vitesse. Et alors j'avais très peu de prises et c'était très bien, ça marchait très bien avec le film. Alors parfois quand c'est bien, au bout d'une fois ou deux, je m'arrête sur une quand on n'a plus rien à dire. Mais parfois si, je me souviens sur ce film-là, il y a une scène comme ça d'amour très touchante à la gare et nous avions beaucoup de sentiments à creuser. Et puis il y avait trois acteurs qui jouent ensemble. Alors il fallait creuser, donc on arrivait vers les 25-30 prises quand même.
Ah oui, quand même.
Ouais, un peu moins que de Doyon, quand même.
C'est la scène de départ
de
Paul qui part.
Mathieu est arrivé, c'était très drôle parce que Mathieu était arrivé sur le tournage. Il a coincé le premier assistant en disant, parce que lui, il a des monologues invraisemblables à sortir, quoi. Il a un texte, il fait un travail admirable dessus. Enfin, c'est pas un travail, il a fait un don de lui qui est bouleversant dans le film. Mais alors, il avait des tartines de texte et il est arrivé vers l'assistant en disant, mince, ça va être comme sur Jimmy P, on va se retrouver avec deux prises par plan, parce qu'il avait super peur de bafouiller ou des choses comme ça. Et l'assistant lui dit, non, tu vas voir, ça dépend du jour.
Benoît, vous avez déclaré que vous préfériez tourner les scènes uniquement au moment où vos personnages se disent des choses importantes, oui. Ce qui évite du coup des moments introductifs qui ne font qu'apporter du réalisme à la scène. Or, je sais que vous n'aimez pas le réalisme au cinéma. Vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes rendu compte qu'il fallait entrer plus rapidement dans le vif de la scène, Arnaud Desplechin ?
La première fois, mais c'est parce que moi je suis d'une génération, si vous voulez, qui était le cinéma qui précédait le grand cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'admiration par ailleurs, même si je n'en ai pas souvent l'usage, c'était Piala. Et c'était un cinéma dans lequel je ne me reconnaissais pas. Je savais l'admirer, mais je ne savais pas l'aimer. Ça ne savait pas m'aider à faire des films. Et donc ce déclic qui s'est produit en moi, c'est quand je me suis retourné vers un cinéma que je croyais connaître parce qu'on me l'avait enseigné à l'école, on me l'avait montré quand j'étais petit, en primaire, dans les scolaires, je voyais les films de Truffaut. Mon père me montrait des films de Godard ou de Rivette. Donc je croyais connaître ce cinéma-là. Et c'est donc en revenant deux générations avant. Et c'est une projection vraiment des 400 coups où j'ai vu la netteté du trait. C'était sur écran, alors l'écran était grand. C'était, je me souviens, la salle, c'était au 3 Luxembourg, et je voyais la précision du trait et à quel point je ne voyais plus que de l'action et à quel point, comme le dit souvent Truffaut, il y avait 4 idées par minute et non pas une scène comme dans Antonioni, une idée toutes les 4 minutes. Vous voyez, il y avait tout d'un coup ça. Non, mais ce qui est très bien aussi.
Oui, non, mais je peux.
C'est pas pareil, quoi. Au lieu de creuser le même sillon, si vous voulez. Il multipliait les pistes et je voyais un feu d'artifice sur l'écran. Et alors je me suis dit, voilà, à ça je peux dédier ma vie. Au réalisme, je ne saurais pas, ça ne m'attire pas assez.
Donc le réalisme, c'est absolument pas votre histoire. Vous auriez pu alors aller du côté du studio, justement, pour contrer le réalisme.
Et non, parce que si, cet attachement à la nouvelle vague, si vous voulez, c'est que quand même...
Le décor extérieur. Ouais.
Oui, le décor extérieur est vraiment l'idée que, ultimement, le réel... Et le seul outil et l'outil ontologique du cinéma, c'est qu'on travaille avec du réel. Comme le dit Rivette, un film, c'est un documentaire sur ses acteurs. Il y a un rapport au documentaire que j'ai très fort, et c'est de jamais perdre la connexion avec le réel qui me plaît. Mais le réel n'étant pas le réalisme, c'est vraiment une idéologie très précise et très datée dans laquelle je ne me retrouve pas. Mais le réel, c'est admirable. Oui, il suffit de voir un film de Rossellini, on a tout compris à ça, quoi.
Le réel ici, ça passe par Roubaix, que vous retrouvez depuis plusieurs films. Et vous dites toujours que justement, pour vous, le cinéma, ce sera de magnifier des lieux très humbles, d'ajouter un peu d'expressionnisme dans un décor naturel. Donc ici, on est à Roubaix. Quelles étaient les pistes de travail que vous avez données à votre chef opératrice, Irina Lubchansky, la fille de l'immense William Lubchansky, qui était le chef de Rivet, de Varda, de Lanzmann. Est-ce que vous avez regardé des films ensemble? Est-ce qu'il y a eu des tableaux, des photographies?
Oh, bien sûr. Je penserai devant vous, je penserai à un film comme ça. Je lui ai montré, bien sûr, les Bill Douglas pour le début, parce que ça m'avait impressionné, mais ce sont des films en noir et blanc. Je lui avais montré un film qui m'est très cher, qui est Outsider de Francis Ford Coppola. Il y avait deux films comme ça qu'il avait tourné à Tulsa avec des très jeunes acteurs, Outsider et Rumblefish, et moi j'avais une passion pour le premier.
Pourquoi pas pour le second?
Et je trouvais ça trop européen à mon goût. Et désolé, mais je préférais le côté populaire et canaille de Outsider. L'autre, c'est un film pour adultes, quoi. Je préférais le film pour enfants. Et il y avait comme ça des images avec un chromatisme très prononcé, des soleils qui flamboient et des choses comme ça. Et il y avait un film complètement idiot, mais qui m'a pas du tout idiot. Mais enfin, qui semblait n'avoir aucun rapport. Je me souviens, elle était pantoise quand j'ai montré. C'était Lady Yakuza, qui est un film de sabre que j'aime beaucoup. J'ai oublié le nom du réalisateur. Avec c'est l'ancêtre de Kill Bill, si vous voulez, de The Bride dans Kill Bill, une femme tout à fait virtuose au sabre. Et comme ça, il y avait une longue promenade où une femme raconte tout son destin tragique de femme comme ça dans le Japon du Moyen-Âge. Et il y avait des cieux de studio comme ça. Alors, vous voyez, l'artifice me plaisait, mais alors, la question que je posais à Irina, c'est maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ça à la balade au petit matin qu'on voit Paul Auster, avec des vrais cieux? Comment est-ce qu'on peut avoir ce rendu, vous voyez, des films japonais du cinéma des années 60-70, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'avoir en vrai, pas en truquant?
Et la réponse a été, comment elle a fait?
Ben, ça, faut vous inviter Irina. Après, elle a fait des tas de trucs techniques. Vous voyez, on a été filmer des cieux. On a incrusté les vrais cieux sur les trucs. Je lui ai montré des peintures flamandes en lui expliquant pourquoi ces cieux japonais m'avaient marqué l'œil très jeune. Même dans les films d'Oshima, comme ça. Oshima, qui est un cinéaste qui a utilisé le studio. On retrouve cet art de peindre les ciels qui est très particulier.
Benoît.
Une autre technique, vous utilisez dans votre film la fermeture et l'ouverture à l'iris. C'est une technique souvent employée par deux de vos cinéastes préférés que vous citez, Scorsese et Truffaut. À quel film, par exemple, vous pensez quand on vous dit fermeture, ouverture à l'iris?
Dans celui-là, je penserai à un film, c'est à Autant de l'innocence, parce que toute la dernière...
De Scorsese.
Oui, The Edge of Innocence de Scorsese, qui est aussi parce que la troisième partie, donc qui est le cœur du film, puisque Esther est le cœur de la vie de Paul, donc c'est l'essentiel du film. Elle, c'est une jeune provinciale. Lui est à Paris, se vit à Paris comme en exil, et la distance les déchire. Il n'a pas le téléphone, donc ils correspondent, et le film devient un film épistolier. Et je pensais à The Edge of Innocence, qui est un film que j'ai montré, par exemple, à Irina, sur plein de scènes, qui lui ont été très utiles. Et donc, oui, il utilise ses iris, qui sont une façon de montrer au spectateur, uniquement de focaliser son attention, sans pour autant venir le chercher par le col, sans faire un travelling avant, que j'adore faire des travelling avant, ou un zoom, j'ai beaucoup de zoom, mais parfois il est bon de garder une certaine distance et pourtant d'être précis. Et ce mélange de précision et sans chantage au pathos, c'est l'iris qui nous permet de chapitrer comme ça le film et de donner une netteté dans l'expression.
Autre figure qui apparaît justement à l'écran, c'est le split screen, c'est-à-dire donc l'écran partagé.
Ouais.
Et là, il y a toute une tradition aussi dans laquelle vous vous inscrivez, vous, avec
les Teen Movies.
Les Teen Movies, d'accord.
Oui, à fond.
Bien sûr. Lesquels? Parce qu'il y en a plusieurs aussi dans l'histoire des États-Unis.
Les Teen Movies, mais j'en ai pas avec split screen. J'en aurais 100 split screen à vous proposer, mais.
Avec, alors 100, allons-y.
100. Je sais pas, dans les plus grands, Super Bad. J'ai oublié, produit par Judd Apatow, mais le réalisateur n'était pas de Judd Apatow. Il y a un film que j'aime beaucoup avec des jeunes provinciaux comme ça qui s'appelle All the Real Girls. Et je crois que le film était Linklater. Non, de David Gordon Green. Il y a un film de Linklater qui est épatant, qui s'appelle Dazed and Confused. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était très très drôle.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son. Et voici ce que vous avez choisi, René Pléchin.
Je vous en ai proposé plusieurs, mais...
On n'a pris qu'un.
Vous en avez pris un.
Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes et les parnasses, une saison littéraire. Ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne sera pas plus féconde. La structure, elle, n'est pas prête passée, parce qu'elle s'inscrit dans le réel, ou plutôt qu'elle nous donne une chance de donner un sens à ce mot de réel au-delà du réalisme qui, socialiste ou non, n'est toujours qu'un effet de discours.
Là encore, effet karaoké.
Incroyable.
Vous dites les paroles en même temps.
Ben oui,
qu'est-ce qu'on entend et pour quelle raison?
Je repense à ce jeune Paul dont que je peins. Alors c'est un garçon qui est avide de savoir. Moi j'étais avide de savoir, mais je suis autodidacte. Je n'ai pas fait, j'ai eu la chance de faire des études comme Paul, comme mon héros. Et alors c'était là quand je suis arrivé à Paris, peu de temps, je crois que c'est en 81 que Lacan est mort. Si je ne me trompe pas, je dois vérifier derrière sur des ordinateurs. Et donc,
ils me disent oui, j'ai vu ça. Ouais.
Et donc, j'étais jeune homme et j'ai eu une chambre de bonne et j'ai passé sur France Culture des émissions. Et je m'étais dit, bah voilà, ma vie sera le cinéma, c'est le choix des arts populaires contre l'université, contre les arts adultes, c'est un art enfantin. Alors, je me disais, mince, je vais être complètement ignorant. Alors, il était notoire que Lacan était un homme très intelligent. Alors, je me suis acheté un séminaire de lui. Je n'y ai rien compris. Ça m'a pris 2 ans et demi à le lire. Et alors, j'écoutais ces émissions qui passaient à sa mort et j'entendais cette voix qui était une voix tellement aimé, tellement précise, et dans cet extrait-là, donc il y a des fragments que je connais par cœur qui m'habitaient. Cet accent gouailleur parisien, pour moi qui venait de Roubaix, qui avait un accent différent, c'était une voix qui m'enchantait, le mélange de trivialité, de préciosité chez cet homme, chez le bon docteur Lacan, c'est une voix qui m'a tellement enseigné, quoi, de l'étudier. Mes seules études, ça aurait été étudier ce texte qui résistait, que j'avais du mal. Et alors là, vous voyez, quand il explique ce que c'est le réel et que c'est pas le réalisme, soit-il socialiste. Vous voyez, ben voilà, je ne croyais pas que cette citation tomberait aussi bien.
Benoît.
Alors pour revenir à votre film, pour interpréter Paul Dédalus jeune, vous avez fait appel à Quentin Dolmer.
Exceptionnel, vraiment génial comme acteur.
Et qui a pour vous quelque chose, vous l'avez dit, de Buster Keaton et de Charles Denner. Qu'est-ce qui vous plaît justement au fait qu'il puisse renvoyer à ces deux références-là, Keaton et Denner?
Denner, sa solitude, peut-être la précision dans la parole, il a une gouaille, il a une élocution très particulière. C'est un garçon qui n'est pas à la mode. Il ne parle que pour lui-même. Il y a ça dans son timbre de voix, dans son élocution. Il ne parle pas pour les autres, il parle pour lui. Et ça, c'est quelque chose que je. Alors, et c'est avec humilité. C'est un garçon assez humble. Et en même temps, il y a un grand orgueil dans l'idée de ne parler que pour soi. Charles Denner, je pensais à un film qui m'est cher, qui est L'homme qui aimait les femmes. Et il a un côté lunaire, un peu perdu. Il est très beau garçon en même temps, et qui me fait penser à Buster Keaton jeune, comme ça, un côté perdu dans et très sage. C'est un garçon trop sage. Paul Dédalus est un garçon trop sage. C'est pour ça qu'il a besoin d'Esther. Esther, elle lui apporte des ordres.
Vous avez demandé à Quentin Dolmer de voir, entre autres, Baiser volé, pour le jeu de Jean-Pierre Léaud, hein, c'est ce qu'il raconte dans un entretien. Et pour Leroy Le Collinet, qui joue Esther, vous lui avez dit de voir À nos amours et Tess de Polanski. Qu'est-ce que vous attendiez de ses visions de films? Qu'est-ce qu'elle devait voir et qu'est-ce que lui devait apprendre?
Ben c'est des films que je leur ai pas demandé, parce que j'aurais trouvé ça impoli, de leur montrer avant. Vous voyez, parce que sinon ils auraient copié, je voyais pas l'intérêt. Mais dans des moments, le tournage c'est quand même long pour des jeunes gens, et puis ils avaient un poids très lourd sur les épaules, parce que et l'un et l'autre, vraiment, elle devient le film. Et lui avait toutes ces scènes si variées à porter sur ses épaules, qu'à un moment il était un peu perdu entre ses références de théâtre qu'il avait, le fait qu'au cinéma... Je ne lui demandais pas un jeu appuyé comme ça. Alors, vous voyez, je lui ai dit, regarde, il y a quelqu'un qui pouvait inventer avec fantaisie et qui l'a fait avant toi. Il s'en sortait avec sa voix à lui, et c'était Léo, pour qu'il se sente moins seul.
Il était empêché par le fait qu'il avait fait du théâtre auparavant?
Non, mais il avait le vertige parce que je lui demandais pas de composer. Et je lui disais, mais non, je te demande quelque chose. C'est pas... Au cinéma, on va voir un acteur. Vous allez voir un film avec Cary Grant. Vous n'allez pas voir la composition de Cary Grant. C'est Cary Grant que vous avez. Si vous allez voir Marilyn Monroe, bien entendu, elle travaille, elle fait l'actrice, etc. Mais enfin, il y a quelque chose, si vous allez voir Marilyn Monroe, c'est pas du tout pareil qu'au théâtre. Et donc, pour résoudre ce paradoxe du comédien, au lieu de lui donner Diderot, je lui ai donné Jean-Pierre Léo. Je trouvais que c'était plus efficace. Et il y a quelque chose qui me bouleverse dans le cinéma, c'est ce fait qu'il y ait des films comme ça, où l'actrice qui n'est pas encore apparue à l'écran devient le film. Qu'elle devient la raison même du film. Et Et alors quand Louise voyait avec appréhension des scènes très difficiles qu'elle a jouées vers la fin, quand elle devient une héroïne et qu'elle en paye le prix, c'est une jeune fille qui désire être une héroïne et tout d'un coup elle en paye le prix de chagrin, elle se croyait intouchable, elle croyait être invulnérable à l'amour et tout d'un coup l'amour vient la frapper et la voilà démunie. Alors je lui montrais Nastassia Kinski qui invente Tess, je lui montrais Sandrine Bonnaire qui pour la première fois à l'écran invente le film de Piala, et bien sûr Harriet Anderson dans Monica, quand tout d'un coup, pour lui dire, voilà, tu as des grandes sœurs qui l'ont fait avant toi, elles n'avaient pas d'expérience de l'écran, et pourtant elles ont réussi à être plus fortes, le réalisateur. Donc, mais il faut que tu sois plus forte que moi, de la même manière que ces trois jeunes femmes l'ont été.
Dernière question.
Oui, alors Emmanuel DeVos, qui était Esther dans Comment je me suis disputé, est absente de Trois souvenirs de ma jeunesse. Il était impossible de lui faire une place dans ce film. Vous le regrettez, vous dites que vous aimez filmer Emmanuel DeVos.
Ah, je le regrette pas parce que c'est cruel, ça me blesse et je ne le regrette pas. Parce que le film est tout entier sur cet homme et c'est là où je parlais de la performance de Mathieu Amalric qui vraiment m'a brisé le cœur, dans le meilleur sens du terme. Et il est tout concentré pour garder intact, comme il dit, ses souvenirs. Le narrateur le dit à un moment, le film commence en narrateur, puis comme ça, vers la moitié du film, il y a de la narration qui commence un peu.
Une voix off extérieure, ouais, acousmétique.
Et qui dit à quoi bon l'amitié quand leur passion était intacte. Vous voyez, ça servira à rien d'aller au café, de dire, et voilà, et t'as eu combien d'enfants, toi, et machin, et tout ça. Non, ça sert à rien. Lui, il est tendu pour garder intacte son arrogance de jeune homme.
Votre premier souvenir avec Monsieur Amalric, ce serait quoi?
Premier souvenir, c'est un premier film qu'il a fait. Il était dans la salle, je le connaissais peu. Je le connaissais de nom. Nous sommes croisés et le film s'appelait Les yeux au plafond et c'est un film dans lequel il joue. Parce que l'acteur avait fait défaut au dernier moment, il le tournait avec Paolo Branco avec des bouts de pellicule, c'était un court-métrage et il avait joué dedans et j'étais ébloui par ce que j'ai vu sur l'écran. Alors c'est curieux parce que c'est un film qu'il n'aime pas montrer. Il dit non, c'est pas un bon film, je joue dedans, ça va pas, etc. Le film est merveilleux et lui, il avait déjà tout le talent, était déjà là.
Le rendez-vous.
In therapy, sometimes I've used the exercise of drawing a line on a sheet of paper. One end is your birth and one end is your death. And where are you now?
Plateau Thérapie avec vous, Sabine Guiziger. Vous êtes documentariste, journaliste. Vous signez La Thérapie du Bonheur. C'est un documentaire sur le psychothérapeute, psychiatre et écrivain américain Irving Yalom. Sa théorie de la psychothérapie existentielle et son travail sur la thérapie de groupe en ont fait l'un des psychothérapeutes les plus influents aux États-Unis. C'est aussi un écrivain à succès qui a popularisé sa réflexion dans plusieurs romans, chaque fois d'énormes best-sellers, Le Problème Spinoza, Bourreau d'amour ou Nietzsche a pleuré. Vous découvrez l'œuvre d'Irving Yalom à la mort de votre père il y a une quinzaine d'années. Avec quel livre et qu'est-ce que cette lecture a déclenché chez vous?
Premièrement, je dois dire que je suis un peu intimidée déjà parce que pour demi-heure, vous avez parlé très vite et je ne peux pas parler
aussi vite. Mais on ne vous le demande pas, ne vous inquiétez pas.
Je m'excuse aussi avec qui écoute, mais je vais essayer d'être un peu vite.
N'essayez pas d'être un peu vite, allez à votre rythme, aucun problème.
Je suis ici, c'est beaucoup plus lentement, excusez-moi. Le premier livre que j'ai lu, c'est le Bourreau d'amour, oui. Mmh. Et naturellement, quand une personne meurt, ou si le père il est mort, on pense plus à la mort. Et là, j'ai trouvé des histoires où j'ai lu et j'ai pensé de lire moi-même. Et ça, c'était aussi un peu le début de l'idée de film, que je pensais que ce serait une très belle chose si je réussisse à faire un film où le spectateur puisse faire la même expérience cathartique que moi j'ai fait en lisant les livres.
À vous, espèce.
Alors, le plan, justement, il s'ouvre sur un plan fixe. On voit un cargo qui traverse lentement l'écran et en voix off, il y a Irving Yalom qui raconte un exercice qu'il fait faire à ses patients.
Vous l'avez fait, vous ?
Alors, j'ai essayé de le faire, oui, je me suis retrouvée à le faire, c'est assez vrai. Moi, je suis encore un peu au début. Il demande justement à ses patients de tracer une ligne qui débute avec leur naissance et qui termine avec leur mort. Et il leur demande de mettre un point sur là où ils sont aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il fallait commencer ce film sur cette image-là ?
Parce que il m'en avait parlé de cet exercice pendant les recherches, et quand je suis retournée en Suisse, il habite en Californie, j'ai fait cet exercice avec beaucoup des amis à moi, et j'ai vu que tout le monde a fait le point trop tôt. Et j'ai toujours dit non, mon cher ou ma chère, t'es plus loin. Hein.
Ça, c'est t'es tout plus près de la mort.
T'es plus près. Et j'ai pensé que c'est une chose très efficace. Alors j'ai pensé de faire cet expériment en cinématographie.
Irving Yalom est né de parents juifs polonais immigrés aux États-Unis. Ils emménagent à Washington dans ce que Irving Yalom appelle un ghetto. Et dans le film, il évoque tout de suite ses rapports avec sa mère, qu'il décrit comme agressive, à qui il refuse de parler pendant 2 ans, de 15 à 17 ans, ce qui place d'emblée le film dans le rapport entre ce personnage et sa mère. Dans quelle mesure avez-vous vu ce film comme une ambition d'être la thérapie même de Yalom? Est-ce qu'il l'a compris comme ça à un moment donné?
Ce serait un peu trop prétentieux, je trouve. Hey,
peut-être, mais pour autant...
Mais naturellement, moi j'ai fait l'interview et j'ai fait le montage. Et alors, moi j'ai trouvé que cette mère, c'était très important. Et alors j'ai mis... Mais peut-être je peux dire en ce contexte que avant d'y aller... J'ai pensé, comme je parle avec une professeure de Stanford, il est habitué à faire des grands discours, ou en psychanalyste, il est habitué d'écouter et dire peu, faire les questions et pas les répondre. Et là, j'étais contente que moi, j'avais déjà fait la thérapie. Alors, je savais au moins, je vais pas essayer de qu'il m'écoute à moi. Ça, c'était clair. Mais comment parler avec lui? Parce qu'on parle dans les mêmes studios où normalement il travaille comme thérapeute. Mais ça s'est allé très naturellement, très bien, et il était très ouvert et une personnage très humble. C'est ça qui m'a impressionné.
Vous le connaissiez, ce thérapeute?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout.
Vous avez fait une thérapie, Arnaud?
Une thérapie, non.
Non.
Jamais.
Thérapie?
Ouais.
Non, le mot me laisse pantois.
C'est vrai. Alors, une analyse. Psychanalyse.
J'étais tenté, ouais.
Et filmé. Alors, vous l'avez fait. Ouais. Filmé un psychanalyste, ouais, vous l'avez fait dans le précédent film. Ouais. Mais un documentaire sur un psychanalyste, c'est quelque chose qui vous aurait tenté?
Quand j'ai vu le programme de l'émission d'aujourd'hui, j'ai très envie de voir le film. Ouais, ça me passionne, ça.
Je lui ai déjà donner une billet gratis.
J'ai mon invitation sur moi. Je ne le raterai pas.
La chance.
Alors justement, quand il était enfant, Irving Yalom, donc il était dans cette partie ghettoisée de Washington, et il a trouvé refuge dans la bibliothèque municipale, où il explique qu'il a commencé à lire toutes les biographies des écrivains et des philosophes qui étaient classées par ordre alphabétique. Donc il a commencé comme ça. Avant même qu'il ne découvre l'analyse, la psychanalyse, quelle place a eu la philosophie dans sa vie, puis ensuite dans son œuvre?
Pour préciser un instant, le ghetto, c'était un double ghetto, parce qu'il était juif, alors blanc, dans un quartier noir, mais il...
Et assez antisémite, il le raconte.
Oui. Mais la question, c'était la philosophie. Il a lu Dostoïevski, et il a compris qu'il est très intéressé à la philosophie, à la psychologie, et là il a commencé, et c'est aussi une autre chose très importante. Il a fait la psychanalyse, il a étudié médecin, psychiatre, mais après il a trouvé qu'il y a quelque chose que toujours manque, et c'est que qu'il y a des problèmes existentiels écrits dans notre existence, comme le besoin d'être ensemble mais rester au fond toujours seul, de vouloir vivre mais devoir mourir, des choses que sont une autre catégorie, comme les catégories de Freud, de sexualité, de toutes ces choses, et il a voulu mêler les deux pensées, les pensées de Freud et les pensées des grands philosophes comme Nietzsche, Schopenhauer, Camus.
Quand vous avez approché Irving Yalom pour évoquer ce documentaire, il dit qu'il n'y a rien à filmer d'un type assis. Est-ce que vous étiez déjà posé des questions quant à la façon de filmer cet intellectuel, justement ?
J'étais terrorisée moi-même, mais j'ai rien dit. J'ai dit non, oui, ce serait peut-être un petit problème dramaturgique, mais ça serait le mien. Mais j'étais terrorisée complètement. Et voilà.
Et alors justement, comment vous avez réussi à contourner cet écueil ? Parce que vous le filmez face caméra, vous évitez justement de le filmer face caméra, vous évitez les codes du documentaire biographique, il est la voix off du film, et vous filmez surtout son corps sportif, en train de nager, de faire de la vélo, faire de la plongée.
Non, pas nager, plonger, non,
plonger,
c'est
oui,
différent,
de faire de la plongée, hein, oui,
c'est
je
une
sais,
image
oui.
symbolique pour plonger dans l'âme ou dans la psyche, oui.
Quelle était l'idée de la photographie que vous avez eue quand, justement, vous avez entrepris ce travail ?
C'est pas que qu'on l'a filmé seulement en plongeant et en allant en bicyclette, mais on a essayé des images symboliques, mais pas trop. Hein? Et on a cherché des images paumes, mais pas trop. J'ai discuté beaucoup avec mon amie qui fait la caméra, Helena Vanière, depuis 25 ans, on travaille ensemble. Comment on peut éviter que quelqu'un voit la mer ou ce qu'on a filmé et dit « Ouh, c'est une belle image !» Parce que dans le moment quand une personne pense à l'image, elle peut pas penser à soi-même. Alors on a essayé comment on peut fabriquer ce genre de beauté qui laisse espace au public.
Des commentaires ou des questions
Non, ça me donne de plus en plus envie de voir le film. Oui, non, mais c'est vrai, comment on fait pour filmer une psychanalyse ? C'est terrible. Oui, de filmer un psychanalyste, qu'est-ce qu'il n'y a pas de pas spectaculaire ? Qu'est-ce qui est infiniment spectaculaire ? Vous voyez, on entendait la voix de Lacan tout à l'heure qui est infiniment spectaculaire. Non, c'est que des questions de mise en scène et vos réponses me donnent envie de voir le film.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé de choisir un son. Et voici ce que vous avez choisi, Sabine Guiséguerre. Identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Je me sens déjà mieux. Hein. 10 secondes et je me sens mieux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le mer. C'est la mer.
Oui, la mer.
Oui, et au bord et dedans, c'est le lieu où je me sens heureux. Et où je aussi trouve... je peux penser mieux quand je vois... la mer, j'aime beaucoup.
Dernière question.
Alors justement, vous filmez la nature, c'est ça que vous voulez que je
vous dise ? Non, mais n'importe quoi, ce que vous voulez.
Et ben justement, la mer, est-ce que c'était le seul moyen de raconter justement la descente dans l'inconscient, etc., la mer ? C'est une des seules idées qui vous est venue pour évoquer toutes ces questions abstraites, puisqu'à un moment donné, dans le film, vous laissez Irving Yalom demander au spectateur de se pencher sur lui-même, et vous le laissez tout seul, le spectateur, face à la mer pendant plus d'une minute.
Trois minutes.
Oui, j'ai pensé que une.
Ça passe vite.
Ben oui, ça veut dire que vous étiez complètement absorbée. C'est donc la réussite de cette plongée en vous-même.
Oui, Dieu sait qu'il y a du travail. J'avais besoin un peu de courage pour ça. J'ai fait ça en plusieurs fois, mais les réactions me disent que le public, il aime d'avoir cet espace. Et vous m'avez demandé s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Peut-être 10 000 autres possibilités, mais je suis seulement qui je suis et j'ai seulement cette idée. Et pour moi, c'était la chose juste. Je peux dire seulement ça.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, après le bruit de la mer, on se quitte sur un autre son, celui de la musique.
Et oui,
session ce soir.
Session électro chaleureuse, c'est comme ça que j'ai intitulé avec le duo français électro Nose, qui a dévoilé hier sur son label Maison Circus Company leur nouvel album, Come With Us. Alors après un détour par l'Allemagne, 4 ans d'absence, Ezekiel et Nicolas, puisque ce sont eux les membres du duo, complices depuis 15 ans, continuent de brouiller les pistes. Leur trio est né d'un amour commun pour le jazz expérimental. Il a fait des tours très remarqués par la house, la vraie. Il revient aujourd'hui à une musique ont une fois de plus iconoclaste, tant électro et blues, et même chaleur des années 70. Nose est en direct du studio 108 avec leur complice Dani Siciliano pour interpréter I Need to Know. C'est une session programmée par notre réalisateur Thomas Beau. Nose, c'est à vous.
Nose, I Need to Know avec Dani Siciliano.
Nose, donc, pour leur nouvel album Come With Us, paru au label Circus Company. Ils seront en concert vendredi aux Nuits Zébrées à la Carène à Brest et samedi en live au Rex Club, c'est à Paris.
Je me souviens.
Un personnage très humble, c'est ça qui m'a impressionné.
Qui vraiment m'a brisé le cœur. Et il est tout concentré pour garder intact, comme il dit, ses souvenirs.
Merci à nos invités, Arnaud Desplechin, Sabine Guiséguer. Vos films seront à l'affiche au cinéma à partir de demain. Nose, l'album Come With Us, est disponible sous le label Circus Company. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
New York.
Gloire à la prod, je traverse Brooklyn comme on traverse le globe. Dans les pop, je crois en la puissance de la prod. Coney Allen, 36ème rue, l'air de glace, mec. Accepte ou déteste le sang, j'en ai rien à foutre de toute façon.
Nous non plus. Demain, une émission hip-hop et culture monde avec le rappeur Akhenaton pour son exposition hip-hop du Bronx aux rues arabes à l'Institut du Monde Arabe à Paris. À ses côtés, l'écrivain Gilles Lapouge. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Zoé Sfez, Aïssa Souendoy et Elsa Béranger, journal de la culture Adrien Nazelli, à la prise de son Jean-Guilain Meige et Thibaut Germez, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
On parle toujours comme ça très très vite, Sabine Guiséguer, dans l'émission. Elle est en train de défaillir. Il est 19h54, vous êtes sur France Culture. Mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.